Actu SF, les podcasts.
Contrairement aux apparences, je ne suis pas Daniel Kaplan. Il est là. Et ce n'est pas lui qui modère, c'est moi. Et il fait donc partie des invités de cette table ronde. Nous en avons un supplémentaire qui n'est pas noté dans ce PDF qu'on ne peut donc pas modifier et qui va se présenter tout seul comme un grand quand je vais donner la parole à chacun. Alors puisqu'on est sur une thématique qui s'appelle l'université de la pluralité, je vais essayer d'être une modératrice de la pluralité. C'est-à-dire que je sais qu'on a tous des rapports au temps et à l'expression un peu différentes. Et je vais peut-être être un peu directive par moment et essayer de faire en sorte que chacun ait à peu près le temps de parole identique. Hein, on sait comment ça se passe entre les hommes et les femmes. On sait comment ça se passe entre les noirs et les blancs. donc on va essayer d'instituer un rapport un peu égalitaire et un peu pluraliste. Ça serait un bon début. Alors, on va commencer à s'interroger. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été essayer de regarder un petit peu de quoi il s'agissait, si vous vous êtes questionné sur ce titre, questionné sur la raison de cette table ronde et sur son origine et de quoi on allait parler, ou si vous êtes venu sur le nom des intervenants en pensant que la célébrité était suffisante. En tout cas, université de la pluralité, ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi? Et de quoi va-t-il être question? Je pense qu'on va pouvoir commencer par Daniel Kaplan pour cette première question. Est-ce que vous pourriez... On va faire du vous ou on va faire du tu?
À 22h, allez.
Allez, faisons du tu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous résumer un peu succinctement quelle était la motivation et quel est l'objectif de cette université de la pluralité?
Pour le dire assez vite, bon, moi je viens du numérique à l'intersection entre l'innovation sociale, la recherche, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez trouver. Mais une des choses qui m'a frappé depuis un moment, notamment quand on a cherché à travailler sur le lien qui était en fait très compliqué entre transformation numérique et transformation écologique. Et une des choses qui me frappait en approfondissant la question écologique, c'était à quel point d'une part, comme on le sait, on sait et on ne fait rien depuis très longtemps, mais en fait, à quel point même ceux qui nous disent qu'il faut agir ne savent pas nous raconter ce qui se passe après la transformation écologique. C'est-à-dire donc j'en suis arrivé à cette conviction qu'on avait un problème d'imaginaire, c'est-à-dire de notre capacité subjective, collective, etc., à se projeter dans un après. Mais en fait, je me suis rendu compte que le monde numérique avait le même problème. D'ailleurs, le mot vis-à-vis duquel on s'est positionné, qui est le mot de singularité. Il existe dans la Silicon Valley une université de la singularité qui est l'endroit dans lequel on raconte comment la technologie qui a créé les problèmes qu'on connaît va aussi les résoudre. Mais le mot de singularité, c'est un mot qui, pour un mathématicien, un physicien, dit c'est un point au-delà desquels les lois qu'on connaît ne marchent plus et on ne sait pas dire à quoi après. Donc on avait le même problème. Et donc, j'avais cette conviction qui m'a fait basculer professionnellement aussi vers ce projet, de dire c'est par un travail sur les imaginaires du futur qu'il va falloir travailler. Mais évidemment, du coup, si on rentre dans les imaginaires, on rentre dans des questions de personnes, subjectives, culturelles, etc. Et donc, la pire des choses serait de dire, ah ben donc, il va falloir qu'on raconte le bon imaginaire, l'histoire dans laquelle il faut tout ce qu'on croit, et ceux qui ne croient pas, vous voyez un peu ce qu'on va leur faire, d'où l'idée de dire c'est quelque chose autour de la pluralité et ce jeu vis-à-vis de l'université de la singularité, de dire on l'aime tellement qu'on en voudrait un million, et donc ça va s'appeler l'université de la pluralité. Donc pour le dire ensuite en une définition, puis après je m'arrête, l'université de la pluralité, on l'imagine aujourd'hui comme le réseau mondial, idéalement mondial, de celles et ceux qui mobilisent le potentiel des imaginaires. Ça inclut la science-fiction ou la création spéculative, mais pas seulement. Ça inclut aussi des formes de design, des formes artistiques, tout type de formes artistiques. Ça devrait inclure le jeu, même si pour le moment on n'y travaille pas assez, etc. Mais les productions d'utopie, des formes un peu créatives de prospective, etc. Mais qui s'assument comme étant imaginaires et donc qui assument une capacité à sortir même éventuellement du possible pour élargir l'espace des futurs auxquels on peut penser et pour créer donc d'autres types de conversations autour des futurs. C'est quelque chose qui est complémentaire d'autres travaux plus sérieux, plus scientifiques, etc. sur les futurs, mais on pense qu'il faut qu'on aille vraiment chercher cette dimension-là et mettre ces personnes qui travaillent explicitement là-dessus en réseau à cette échelle internationale. C'est ce qu'on va commencer à faire très concrètement fin novembre.
Kitty, qu'est-ce qui, toi, t'amène en tant qu'autrice de science-fiction et pas que, autant qu'autrice de l'imaginaire, je dirais plutôt. Qu'est-ce qui t'amène à participer à cette université ?
Qu'est-ce qu'il y a, Ariel ? Bah, je suis Katie Stewart. Je suis contente. ce qui m'amène, en fait, j'écoutais ce que disait Daniel, et à part écrire de la science-fiction, je me retrouve dans tout un tas de choses, c'est-à-dire raconter l'après, raconter autre chose, c'est juste l'histoire de ma vie, en fait. Si j'avais suivi le parcours qui a été fait pour moi, peut-être que je serais assistante d'un pasteur d'une secte protestante, mariée avec 4-5 enfants.
Ça fait envie.
En Martinique. Bon, je n'ai rien réalisé de tout ça parce que j'ai eu besoin assez tôt de raconter une autre histoire. Et pour raconter une autre histoire, il faut croire qu'il est possible qu'il y ait une autre histoire. Et lui donner vie. Donc c'est exactement mon parcours. Alors je le fais aussi en écrivant des nouvelles de science-fiction. Je le fais aussi en travaillant à l'éducation nationale et en proposant à des élèves en lycée professionnel d'imaginer autre chose que ce qui est écrit pour eux d'avance. Je le fais en étant une femme noire qui a fait des études scientifiques et qui fait ce qu'elle veut et qui ouvre sa bouche et qui emmerde les gens. Donc permettre l'existence, la coexistence de plusieurs récits du futur, c'est quelque chose qui me parle. Et quand j'ai été contactée par Daniel, Ariel et Max, qui n'est pas là, mais qui a joué un rôle assez important, j'étais vraiment à ce carrefour où je me disais, mais ok, t'es arrivé à un moment où finalement tu fais du même. T'écris des trucs, ok, ouais, super, t'as des nouvelles chez La Volte, ouais, et après ? Et est-ce que tu changes quelque chose avec tes textes ? Est-ce que t'ajoutes quelque chose ? J'avais vraiment l'impression d'arriver à une espèce de moment où j'avais envie de donner vie à tout un tas de choses. Et j'avais expérimenté le design fiction, en fait, avec donc Max Molland, qui fait beaucoup pour démocratiser cette pratique. Et donc j'étais prête, voilà, j'étais prête à faire des choses avec des gens. J'aime bien le côté solitaire de l'écriture, mais j'apprends aussi la richesse du fait de partager des idées avec des gens, de partager des objectifs avec des gens qui ne font pas les choses de la même manière que moi, et voilà, ça tombait à pic, donc je suis là. Et on va peut-être y revenir, mais je me suis donné un rôle un peu de poil à gratter, dans cette université de la pluralité, parce qu'on sait bien que quand les gens se regroupent et commencent à formaliser les choses, ben, on se retrouve ben, dans cette impasse, à faire du même parce que c'est plus simple, parce que pour faire beaucoup de choses à plusieurs, ben, parfois il faut faire des compromis, il faut oublier des gens, parce que ben, oui, la pluralité, d'accord, mais bon, quand même, mais on va en parler.
L'entre-soi.
L'entre-soi, il est proche, donc je fais aussi poil à gratter, ce qui est très bien aussi, qui me tient éveillée, moi aussi.
Ariel, quelle est la motivation ?
Donc Ariel, je suis celui qui n'a pas son nom, en fait, l'anonyme, Kirou, K-Y-R-U. La dernière fois que je suis venu ici, c'était pour un documentaire dont j'étais scénariste, qui est un documentaire sur Philippe K. Dick. Donc, voilà. Voilà, mais on avait fait un concours, il fallait que je dise Alain Damasio aussi, donc je vais essayer. Donc j'ai dit Philippe K. Dick, donc voilà, bon. Et donc c'est vrai que l'un de mes dadas, c'est d'utiliser l'art contemporain et la science-fiction et tout ce qui est le domaine de l'imaginaire pour essayer de mieux penser, tant que faire se peut, notre époque, voire le futur proche. Ça, c'est un petit peu mon dada. Et il me semblait, bon, très vite, on en a parlé de ce projet avec Daniel, et il me semblait qu'on a un besoin absolument urgent. Il y a aujourd'hui une multitude d'imaginaires. Ici, aux Utopiades, on en voit passer beaucoup par un tas de supports, avec un tas de personnes qui en parlent plutôt très bien. Il me semble qu'à un niveau plus vaste, on a réellement besoin de découvrir et de rendre visibles des imaginaires alternatifs, et notamment des imaginaires alternatifs à ceux de la Silicon Valley, entre autres choses. Et c'est vrai que l'univers de la pluralité va nous permettre, nous permet déjà, de découvrir des auteurs indiens, pakistanais, africains, d'être surpris nous-mêmes par un tas de découvertes, à la fois en termes de territoire, par exemple le design fiction, mais il y en a bien d'autres, de nous surprendre tous autant qu'on est en fait, au sein de ce collectif à peine naissant, qui a vocation à être international, avec une dimension derrière qui est une dimension sociale et politique, c'est-à-dire comment on fait non seulement pour découvrir, rendre visibles des imaginaires alternatifs du futur, mais comment on peut nous-mêmes agir en quelque sorte pour qu'ils soient encore plus visibles et pour concrétiser ensemble des projets qui les signifient, qui les mettent en scène et qui fassent opposition, on va dire, d'une manière ou d'une autre, mais ça c'est mon point de vue, après il faut voir comment on peut y arriver, opposition à des imaginaires dominants, mainstream, et notamment des imaginaires politiques dominants, ou qui sont en train de devenir dominants et qui sont quand même quelque peu nauséabonds. Et ça, la science-fiction, le design fiction et beaucoup d'autres disciplines y arrivent en nous faisant vivre des hypothèses de pensée, en fait, et en le faisant au travers de l'humain. Et ça, voire des dispositifs. Et ça, c'est assez précieux. Voilà.
Catherine, comment est-ce que toi, tu t'inscris dans cette idée ?
Alors, donc, moi, je suis Catherine Dufour, je suis autrice de SF. Et en fait, je suis au sein d'un groupe d'auteurs et autrices de SF, Zanzibar, dans lequel il y a Léo Henry, Norbert Merjanan, Laurent Clotzer, Levan. Hein ? Alain Damasio, ouais. Il y a Alain Damasio. Levan, Sabrina Calvo, bref. Et on s'est aperçu que ce qu'on écrivait en SF, c'était sordide. C'était toujours catastrophiste. Alors, il faut bien le dire, les ouvrages de SF, en général, genre 1984, ça prête pas à rire. Le meilleur des mondes, c'est pas très marrant non plus. The Road, c'est pas super la joie. Et c'est Alain Damasio, donc, qui a eu cette expression magnifique. Faut désincarcérer le futur. Faut arriver à donner une image un peu plus positive du futur, parce que sinon, on a tous envie de mourir. Et donc, je participe à pas mal d'actions qui essaye de désincarcérer le futur. Outre ce groupe qui s'appelle Zanzibar, il y a aussi un groupe qui s'appelle, c'est une société qui s'appelle Bluenov qui organise ça. C'est des créations de nouvelles où on essaye de faire de l'utopie. Ça s'appelle Bright Mirror, en opposition à Black Mirror. Je suppose que pas mal d'entre vous ont vu Black Mirror, qui est donc aussi un bon remède à l'envie de vivre.
Et une incarcération totale du futur.
Voilà. Et donc, Bright Mirror, on essaye désespérément d'écrire des nouvelles d'utopie qui ne soient pas non plus totalement bisounours, mais qui soient réalisables. Il y a aussi, si vous y intéressez, vous pourrez trouver sur le net Solarpunk. C'est pareil, ils essayent d'imaginer un futur vivable. Et j'ai découvert l'université de la pluralité, et avec cette ambition de créer des futurs désirables. Et moi, je suis vraiment, je ne veux pas dire comme un parasite, mais plutôt comme une éponge. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est d'être entourée de gens plus créatifs et plus intelligents que moi. Comme ça, je les écoute et ça m'enrichit. Alors des fois, j'essaye d'apporter un peu mon truc. Voilà, bon, je ne sais pas, il y a Clémence qui m'a appris énormément sur l'intersectionnalité. Il y a Daniel qui est d'une stabilité absolue. Il y a Katie qui découpe la réalité au scalpel. Voilà que je me mets à parler comme Télérama, je vais arrêter. Et il y a Ariel qui a une espèce de puits de sens, c'est une sorte de Philippe K. Dick décoiffé, enfin voilà. Donc pour moi, l'université de la pluralité a comme objectif d'être ça, tous ensemble, et y compris avec ceux d'entre vous qui auraient envie de participer, c'est d'essayer d'inventer ensemble un futur qui ne donnerait pas envie de se tirer une balle.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut l'arriver à cette université ? Moi, je dois avouer que je vais essayer de jouer la candide aussi. Et quand on m'a demandé d'animer cette table ronde et de participer avec vous et aussi à l'université, c'est les premières questions qui me sont venues à l'esprit. C'est la question du choix du terme université. Autant l'évacuer tout de suite parce que pour moi, c'est une question importante. Parce que quand moi, je parle de pluralité, j'ai besoin de parler de tout le monde. J'ai besoin de parler en tant qu'afroféministe, donc avec une vision intersectionnelle du monde. J'ai besoin de parler des gens qui sont en situation de handicap, j'ai besoin de parler des gens dont on ne parle pas, des gens qui n'ont pas la parole, des gens qui n'ont pas la place. Alors, comment est-ce qu'on donne la place quand, dès le départ, on choisit d'appeler cette entité une université ? C'est-à-dire qu'on part déjà, à mon sens, sur des bases un petit peu élevées, sur des bases de personnes qui ont les connaissances, les savoirs, l'énergie, la possibilité intellectuelle, enfin plein, toutes ces choses-là qui définissent le classisme et qui nous situent dans la société. Comment est-ce qu'on choisit d'appeler ça une université et pas l'école ? Après tout, l'école, c'est bien plus accessible à tous, même si, à l'heure actuelle, on peut créer un petit doute sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on choisit de parler d'une université ?
Alors, je pourrais répondre un peu en court-circuitant en disant il y a bien les universités populaires, et donc c'est pas nécessairement qu'un truc élitiste, et que historiquement d'ailleurs l'université c'est pas seulement un truc où il y a des gens en chair qui viennent délivrer un savoir à des étudiants qui viennent l'absorber. Ça peut être plein d'autres choses qui se passent dans un endroit de ce type-là. Bon, après, en réalité, on sait que le terme lui-même il est ouvert. C'est vraiment un projet en devenir, au sens où, comme on dit que c'est un réseau, le premier acte de ce réseau, il n'a pas encore en fait été posé. Là, au fond, on vous parle d'un truc, mais ça n'existe pas, c'est un secret, il ne faut pas en parler. Non, il y a un site et tout. Mais,
on saura que c'est vous.
Voilà. Mais oui, bien sûr, on sait tout. Mais on n'a pas créé d'organisation, on est hébergé par mon ancienne organisation, la FING, etc., parce que, en fait, on réunit les gens, il y a quarantaine de personnes qui viennent du monde entier, et on a été assez sérieux sur le fait que c'est du monde entier. On s'est notamment donné comme objectif, alors c'était là, Kétiro a raison de dire, c'est encore modeste, mais c'était comme ça, c'est de se dire, il n'y a pas plus de la moitié d'Européens et d'Américains dedans, de manière à se dire, on a des Asiatiques, on a des Africains, on est mauvais sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, bon, voilà, et on va s'améliorer là-dessus. Et donc, avant ça, ça n'existe pas. On y réfléchit, on crée les structures, on fait en sorte, on va les faire venir deux jours, donc il faut qu'on soit efficace, donc en fait on a énormément bossé, mais avant ça, ça n'existe pas. Et le nom lui-même, il reste ouvert. Pas tellement à cause de ce caractère élitiste intrinsèque quand même, parce qu'à nouveau on peut y répondre, mais parce qu'effectivement pour des gens, il peut y avoir cette exception où il peut y avoir l'idée, ok, donc c'est un truc institutionnel, il y a des murs, qui sait qui peut s'inscrire, ça coûte combien, qui sont les profs, etc. Or c'est un réseau, et c'est vraiment quelque chose qui essaye de répondre par exemple à me semble-t-il, une des questions que posait Kétique. Moi j'entends très souvent côté SF, côté design fiction, etc., qui est: qu'est-ce qui fait qu'on écrit ou on produit ces choses-là, quelque part, d'abord par nécessité d'artiste, mais aussi parce qu'on est engagé dans quelque chose. On fait éventuellement dans des ateliers, dans des moments, etc., vivre des choses importantes aux gens qui sont déjà importantes d'un point de vue biographique, c'est-à-dire les gens qui sont passés par les ateliers, etc., en ressortent un petit peu transformés, mais à la fin, d'un point de vue politique au sens très large, on a l'impression que ça ne change rien. Et donc, est-ce que éventuellement, en se mettant ensemble, en travaillant, en faisant un peu corps, masse, en échangeant aussi, on peut gagner une force collective ? Est-ce que si le mot université est sur le chemin de ça et complique notamment effectivement l'adhésion possible de toutes celles et ceux qui normalement ne sont pas dans des universités d'aujourd'hui, bah, il faudra juste s'en priver. C'est, pour être clair, c'est né parce que c'était rigolo vis-à-vis d'université de la singularité. Voilà, on n'y tient pas plus que ça.
D'accord. Bon, ça c'est résolu. Kétie, est-ce que pour toi il y a des impératifs ou des objectifs précis qui te semblent importants à maintenir dans ce réseau ? Donc.
Alors la première fois que je suis venue, je crois que c'était la deuxième réunion du groupe ou troisième, pas loin. Il y avait une grosse curiosité, une grosse méfiance, et on a eu une séance de travail. J'en suis ressortie en me disant, mais on peut faire des trucs ensemble. On peut parler du futur sans que ça devienne juste des trucs angoissants. On peut essayer de rêver des choses, on peut même avoir les moyens de changer les choses concrètement. Et ça, ça m'a porté. Alors après, je rentre chez moi, ça redescend, et puis on reçoit un nouveau mail, et puis un nouveau rendez-vous, et puis il y a de nouveaux trucs. Bon, je crois que je ne vais plus partir définitivement, mais, mais voilà. Il y a ça déjà, qui, moi, à titre personnel, m'a donné envie de re-rêver. Avec le cerveau en plus, hein, voilà, c'est pas mal. Après, c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, je fais poil à gratter parce qu'il y a ce risque énorme Quand je me suis retrouvée la première fois dans le groupe, je crois qu'il y avait deux autres femmes, dont une qui est partie. blanche, hein, tous les, puis des hommes blancs, et puis des personnes... alors toi, tu fais quoi? Moi, j'ai un doctorat de... Oh, j'écris une thèse sur... Et je me suis demandé si je pouvais venir avec ma boulangère. Voilà. Je me suis demandé si je pouvais venir avec un de mes élèves qui a plein d'idées, mais qui fait un peu n'importe quoi, mais qui ne connaît pas encore beaucoup de choses. Mais voilà. Je me suis posé ce genre de questions. Est-ce que... alors, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas fait de thèse, machin, mais j'ai fait des études. Et par moments, on discutait. dans les premières réunions, j'ai un peu arrêté parce que c'est fatigant, mais dans les premières réunions, je faisais la chasse au vocabulaire incompréhensible. Le vocabulaire du marketing, le vocabulaire
de l'université,
des choses très très pointues qui font de l'entre-soi et qui ferment. Et parmi les actions qui ont été menées, mais je pense que tu vas en parler, Daniel, il y a eu un exemple de choses qui fermaient, c'était le séminaire. Très important d'avoir des séminaires avec des personnes sur des sujets très pointus qui nous apprennent des tas de choses. Mais après, et on s'est vite rendu compte qu'on se retrouvait avec des séminaires où il y avait trois hommes d'un certain âge qui parlent de trucs et que peut-être on peut leur poser des questions à la fin, mais voilà. Donc, je fais poil à gratter parce que ça me paraît important. Alors, c'est fatigant. Hein. Quand on est une femme noire, on se retrouve souvent dans ce rôle à devoir rappeler aux gens « Hey, on existe, attention !» En plus, il y a une période où je venais avec mes béquilles dans le séminaire. Donc, femme noire handicapée, je m'étais fait un devoir parce que je me suis dit à un moment « Ok, tu ne peux pas être réduite à ce rôle sans arrêt, mais en même temps, si tu ne le fais pas, qui va le faire ?» Et pour moi, ça fait partie des objectifs. C'est-à-dire, on parle de... C'est quoi? Réimaginiser le futur? C'est ça, ton truc?
Ouais,
imaginiser le futur?
J'ai ce mot-là, oui. On l'utilise moins parce que tout le monde me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Puis donc, il y a déjà l'université, il y a la pluralité. Donc, on va se dire,
mais donc, bon, en ça, tout cas, oui, voilà. Redonner
arrêtons
une rigueur.
Arrêtons le ridicule.
Remettre du vivant, remettre des possibles, remettre de l'ouverture et des choses comme ça. Et effectivement, si on se laisse aller, eh ben, on finit par se dire les mêmes choses, par se trouver vachement intelligent, d'avoir des super idées et pas faire de place ni pour ma boulangère, ni pour mon élève, ni pour les SDF que j'ai eu à mon stage l'année dernière, ni pour les gens qui, eux aussi, ont le droit d'avoir un futur, eux aussi ont le droit de participer à la définition de demain, eux aussi ont le droit de venir à l'université de la pluralité et de rêver aussi avec nous. Quoi.
Mmh. Ariel, comment est-ce que toi, tu vois la possibilité d'ouvrir et de ne pas rester dans l'entre-soi?
Par le doute, toujours douter. Quoi qu'il arrive, scepticisme généralisé, mais tourner vers l'horizon, c'est-à-dire de se dire au fond, on construit un chemin, on a un horizon qui va changer au fur et à mesure qu'on le construit, et veiller à ce que les gens avec qui on va construire à la fois ce chemin et s'approcher de l'horizon soient des gens différents de nous, des gens qui soient voilà, différents, qui soient a priori, je l'espère, pas trop mainstream, mais ça c'est un travail, ce que disait Daniel en fait, hein, le fait d'avoir... plus de la moitié des gens qui viennent d'ailleurs, quoi, de gens, d'auteurs qui n'ont même pas été traduits, de gens de design fiction qui viennent d'horizons qu'on n'aurait même pas imaginés. Je pense que c'est quelque chose qui est une sorte d'exercice, de gymnastique quelque part, qui n'est pas forcément naturel. En fait, hein. Et donc, garder cette capacité à la fois d'émerveillement et de piqûre. Hein, il faut aussi une part de lucidité, une part de... il faut être mordu soi-même, sinon je pense qu'on n'avance pas. Donc oui, je crois que c'est vraiment un exercice. Voilà. C'est un exercice, mais un exercice dont l'objectif commun et partagé est réellement de signifier, de mettre en scène, de valoriser, de découvrir des imaginaires qu'on puisse à la fois donc, découvrir et opérer, voilà, rendre actuel. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de se dire, aujourd'hui, j'ai l'impression que on te dit, quand tu dis que tu veux concrétiser tes rêves, on te dit que tu n'es pas réaliste, mais je pense qu'on n'a même pas le choix. On doit rêver et tenter tous de concrétiser nos rêves et le faire ensemble, pas chacun de son côté. Je veux dire, donc,
Et si on nous dit, oui, c'est perdu d'avance, bah, tant mieux, c'est perdu d'avance, c'est pas grave, au moins, on va avancer ensemble. Je veux dire, ce ne sera jamais totalement perdu. Ce qui est perdu, c'est de se dire que c'est perdu. Ce qui est perdu, c'est de se dire, on arrête, quoi. Super, voilà, on voit le Brésil, on voit l'Italie, on voit tout le reste. Nous, on a Macron, génial, quelle chance. Waouh. Pour éviter que ce soit pire, on ne va rien faire. Non, non, au contraire, c'est construire, allons tous ensemble, mais avec ce scepticisme et cette capacité à se laisser surprendre. Voilà.
Catherine, est-ce que toi, tu penses qu'il y a
une voie entre soi, oui.
Oui.
Ben, pardon. En ce qui concerne le terme université, ça pourrait être remplacé par école ou groupe de réflexion ou think tank ou Rotary Club. Ça sera toujours la même chose. Un groupe de gens qui ont assez de culture et de loisirs pour se réunir et réfléchir. C'est-à-dire que globalement, il faut être né du côté ensoleillé de la barrière sociale, quoi. Sur 7 milliards d'êtres humains, à l'heure actuelle, il y en a 1 milliard qui est en train de mourir de faim. Il y a un enfant qui meurt toutes les 2 secondes de faim. Le reste, quoi, il y en a 3 milliards et demi qui se lèvent le matin, ils n'ont même pas un verre d'eau potable à boire. Des gens qui peuvent avoir comme ça le loisir de la réflexion, il y en a moins d'un milliard. C'est moins de 10%. Bon. Donc, effectivement, on est du bon côté, même si je pense la plupart d'entre nous ont des fins de mois difficiles. On est quand même né du bon côté de la barrière sociale. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut que... Enfin, je pourrais être chez moi, je sais pas, à compter mes lingots d'or, par exemple, en me foutant absolument du monde tel qu'il est. Et je connais beaucoup de gens qui ont des très belles thèses et qui se foutent, enfin, qui leur viendraient pas à l'idée de se réunir pour réfléchir gratuitement à l'avenir du monde, quoi. Ils sont surtout occupés à faire des trucs payants et le plus cher possible. Donc, je trouve ça... Je pense que l'université de la pluralité va réunir des gens justement de bonne volonté qui ont décidé de ne pas vivre de façon égoïste. Et je trouve ça très bien. Alors maintenant, on peut effectivement l'appeler université ou moule à gaufres. Ça m'importe assez peu. Maintenant, l'université, moi, telle que je la vois, parce que je travaille dans une université qui est dans le 93, ça réunit quand même pas mal, pardon, pas mal d'espoir et pas mal de gens... qui n'ont pas ou peu de moyens, mais qui comptent fermement sur l'université, justement, pour se sortir de la nasse, et qui, évidemment, ont un travail mal payé à côté et qui font des doubles journées. Donc, je n'ai pas une vision de l'université. J'ai une vision de l'université comme, bien sûr, s'adressant à des gens qui sont... Enfin, je ne sais pas, déjà, pour y accéder, il faut être vivant, il ne faut pas être mort à l'âge de 2 ans sur un trottoir de manif. Enfin, c'est vraiment destiné à des gens qui, à la base, ont eu de la chance, mais qui sont pas forcément, qui font pas forcément partie de l'élite et certainement pas d'une élite égoïste. Donc, en fait, le terme université me convient beaucoup mieux que, je ne sais pas, moi, école de commerce. Ou,
Par hasard. <Voilà. rire> Au hasard.
L'école de commerce de la pluralité.
Voilà. Ça existe déjà.
Voilà.
Sciences Po, HEC. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de se rendre compte que effectivement, le terme université finalement peut être dévoyé, modifié, et peut-être un peu plus comme les universités brésiliennes qui subissent actuellement des sortes de perquisitions du savoir très rapides pour qu'on puisse dénoncer les profs qui auraient des idées un peu trop de gauche. Donc, effectivement, il peut y avoir des universités. On est parti sur une université sans carabin, on est d'accord. Bon, c'est déjà ça. Katie va rajouter un truc.
Allez, battez-vous. Par rapport à mes craintes, en fait, il y a eu. J'avais eu une lecture là, de Nicolas Noval sur les futurs, qui faisait un constat, alors un constat qui est partagé par plein de gens, que en fait le futur c'est plus comme avant, que on reconnaît
que c'était le passé, qui était plus
non,
comme
c'est
avant.
Le futur. Le futur est plus comme avant. On n'a même pas réussi à avoir des overboards. En fait, si, il y en a, mais voilà, tout le monde n'en a pas. Et c'est trop triste parce que le super monde futur qu'on imaginait, ben il s'est pas produit et c'est trop malheureux. Et en fait, donc ça c'était la première partie avec un constat très très documenté. Et la réponse qu'il donnait m'avait laissé un peu perplexe, on va dire, puisqu'en fait, l'idée, c'était, ben, puisque nous, on n'a plus, puisque l'Occident n'a plus l'imaginaire qui fait rêver, on va aller piller ailleurs. Bon, il ne disait pas comme ça, mais il y avait de ça.
Échanger culturellement avec des gens qui ne sont pas d'accord.
C'est ça. On va aller... Oui, moi j'ai lu ça, hein, comme ça. On va aller piller ailleurs parce qu'il y a des trucs vachement bien qui se font en Chine, il y a des trucs vachement bien qui se font en Inde, il y a des trucs vachement bien qui se font en Afrique. Et c'était dit sans méchanceté, c'est souvent sans méchanceté. Mais dans le projet de l'Université de la Pluralité, j'avais peur aussi de retrouver cette chose qui était de dire ben, on n'a plus nos ressources. Oh, il y a de l'or là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas voir pour pouvoir l'exploiter et faire nos trucs aussi ? Bon, j'ai été rassurée assez vite, puisqu'effectivement, il y avait cette volonté clairement dite et clairement affichée d'un échange. C'était pas on va chercher des super initiatives et on va les mettre sous notre coupe, et comme ça, ça va être à nous, et on va faire des trucs pour sauver, j'allais dire, nos culs blancs. Pour sauver notre société en déclin. Voilà. Donc voilà, j'avais cette crainte-là, et effectivement, en ayant eu pas mal d'échanges, je me suis rendu compte qu'on était aussi sur autre chose, on n'était pas dans ce truc. C'est tellement courant, c'est tellement automatique, en fait, en Occident, de se dire, ben, on n'a plus, on va chercher ailleurs. On a usé cette terre, ben, on va aller ailleurs, on va conquérir... Et puis, s'il y a d'autres peuples, eh bien, on va les pousser, on va prendre ce qu'il faut. Cette vigilance-là, je la garde encore. Mais déjà, comme on n'est pas dans une démarche du tout commerciale, du tout marchande, ça laisse aussi, ça fait aussi tomber cette crainte.
Alors, la question qui peut se poser aussi de votre part et de la part de l'organisation des Utopiales, c'est de savoir à quel moment et dans quelle mesure cette université s'inscrit dans la démarche des Utopiales. Je pense qu'on en a un petit peu discuté tous ensemble en préparant cette table ronde. Moi, il me semble important, et j'ai peut-être une vision un peu candide des choses, mais c'est ce que je suis, parfois, par rapport aux utopiales et à la science-fiction, mais par rapport aux utopiales plus que par rapport à la science-fiction, c'était de me dire que, justement, ce qui, pour moi, constituait une petite absence d'intérêt dans les utopiales, c'était un peu l'absence de plus de considération pour les sciences sociales. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un festival qui parle des liens entre la science et la science-fiction, tout en ne traitant pas une partie des sciences qui sont les sciences sociales. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu proposer aux utopiales d'introduire cet angle-là dans leur réflexion ?
Je pense qu'ils essayent déjà de le faire. Si on pouvait devenir à terme un peu ce qui est pour nous Katie, c'est-à-dire un poil à gratter, avec peut-être moins de talent pour gratter partout où ça fait mal, mais bon, ce serait déjà quelque chose d'assez formidable. Non, ceci dit, je pense que aujourd'hui, les utopiales fonctionnent avec une dualité entre la science et la science-fiction. Ce qui, au fond, est assez ancien. Hein, ça date de l'âge d'or de la science-fiction. C'est très utile, c'est très intéressant, mais nous avons, je crois, en tout cas moi j'ai le sentiment, et je pense qu'on est plusieurs à le partager, le sentiment qu'il faut rajouter à ça des fous, il faut rajouter à ça des personnes en situation de handicap, des gens de Fab Lab, évidemment des gens de sciences sociales aussi, il faut des gens d'art contemporain, et qu'à un moment donné, réinventer, réimaginer, rendre lisible, visible d'autres types de futurs, hein, je pense que c'est assez en phase avec la philosophie des utopiales, que ça suppose un vrai travail justement sur le socle commun, et quel est le socle commun de tous ces publics, y compris de vous ici, c'est l'imaginaire. C'est de s'interroger sur nos représentations qu'on a du présent et du futur, représentation de l'autre, sur nos fantasmes et nos rêves. Et ce qui différencie nos rêves de nos fantasmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un rêve a sa propre liberté, sa propre autonomie, et n'est pas juste un fantasme qui répète des clichés qu'on entend un peu partout. Il y a aussi ce travail-là qui est assez essentiel, et je pense que, pour le coup, ce travail sur les imaginaires et cet élargissement des publics, et pas simplement vers les sciences sociales, ce serait assez formidable. Voilà. Et moi, si on pouvait contribuer à ça, j'avoue que je serais assez enchanté.
Daniel ?
Si on pouvait prolonger, c'est vrai qu'on aimerait bien d'ailleurs vous entendre aussi, donc faut que nous on fasse court aussi. Mais on pourrait rêver de plein de choses. On pourrait d'abord rêver que la science soit pas, et c'est un peu souvent le cas ici, l'endroit des gens qui disent ce qui est vrai, Or, la science, c'est un truc qui bouge. C'est-à-dire qu'une théorie scientifique, elle va être démentie par une autre théorie scientifique. Elle est produite dans un certain contexte. Voilà. Et donc,
avec des biais.
Elle a des biais, etc. Et c'est normal. La sociologie a travaillé sur la construction de la vérité scientifique depuis un certain temps maintenant. Et c'est quelque chose d'extraordinairement important. Et donc, quelque part, la science assume son caractère imaginaire de ce point de vue-là, c'est-à-dire issu de quelque chose de fondement, y compris culturel, biographique, etc., voire politique, au bon sens du terme, ce serait intéressant. Donc il y a l'essence sociale, mais il peut y avoir aussi un dialogue peut-être un peu plus égalitaire entre la fiction et la science, quelque part. Il n'y a pas que la fiction qui, de temps en temps, peut dire quand même vraiment des conneries. Non, ça, c'est pas vrai. Bah oui, bah, c'est le but. Hein. Peut-être la deuxième chose, c'est qu'on pourrait vouloir, et là on pourrait se servir de les gens, enfin se servir, s'appuyer sur tous les gens dont tu sais. Je parlais des Fab Labs, etc. Faire en sorte que la fiction dont on parle, la production de futur imaginaire dont on parle, elle soit pas seulement celle de personnes qui sont ici et qui parlent, et vous posez des questions, mais qu'elle puisse. Alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Donc c'est pas facile, hein. Mais cela dit, faire des très grands ateliers dans lesquels les gens produisent des choses à des échelles de centaines et de milliers de personnes, ça existe. Des gens l'ont déjà fait. Des gens à Nantes savent le faire, je le sais. Voilà, on pourrait vouloir. C'est ce type de choses-là qui nous intéresse. Et l'université, en réalité, c'est pas un gros machin. Dans mes rêves, parce que moi j'ai dirigé des trucs un peu plus gros et en fait j'en avais marre, c'était aussi une des raisons. Donc dans mes rêves, on est une équipe de 3 ou 4. Qui gère ça, parce qu'il se passe plein de choses qui ne sont pas faites par nous, mais qui par contre éventuellement se font savoir, se documentent, s'open sourcise de manière à ce que d'autres puissent le refaire. Oui, voilà.
C'est
la bravitude du langage. Se publie en sous des formats libres et réutilisables. Voilà.
Il suffit de demander et enfin, oui, on fait une explication à des mots barbares. Bon,
j'ai pas fait beaucoup d'anglais quand même, mais vous avez raison. Ça fait partie des choses nécessaires. Enfin voilà, donc c'est ce type de choses dont on pourrait rêver, mais ça nous intéresserait de voir s'il y a des choses dont vous rêveriez aussi.
Catherine.
Oui. Non, arrête, t'es complètement fluent en anglais. Oui, moi je rêve par exemple pour en rester clairement aux utopiales. Enfin, il y a des tas de trucs intéressants qui se passent, des tables rondes, des discussions, tout ça. Et il y a plein de gens qui sont là. Et je trouve que ça fait un peu matelas en mousse. C'est-à-dire que il y a des choses qui sortent de l'estrade et plouf, après ça s'étouffe dans le matelas en mousse. Simplement parce que on donne pas la parole aux gens qui écoutent. Et je trouve que ça serait vachement bien, alors ça c'est donc un projet Université de la Pluralité, c'est qu'à la fin de chaque table ronde, il y ait, j'en sais rien, moi, l'équivalent d'une cabine de photomaton, excusez-moi, je suis une vieille, donc une cabine de photomaton, c'est une espèce de cabine où tout le monde connaît.
Non mais il y a encore plein de gens qui font des papiers d'identité, okay. Catherine, et qui ont besoin d'un photomaton. C'est ces gens-là ont peut-être un passeport.
Bon, d'accord. Ok, autant pour moi. Bon, mais je pensais que non, que c'était un peu comme les Polaroids.
Non, tu n'es pas si ancienne que ça, Mathusalem.
Je sais pas, où chacun puisse dire, ben voilà, moi, ce que j'en ai pensé. Alors, par exemple, j'en sais rien, sur l'avenir de l'humanité, ou l'avenir, là, des trucs sur l'avenir du corps. J'ai écouté, et tout d'un coup, j'ai une idée, c'est celle-là. Et on pourrait faire un montage, comme ça, des réactions des personnes qui ont envie de s'exprimer sur un thème donné. C'est pas la peine de garder trace que des personnes qui parlaient sur la scène. Ça pourrait être vachement bien de garder trace de ce que chaque personne qui a écouté a eu comme idée. Parce que souvent, il y a des idées absolument géniales. Et c'est dommage qu'il n'en reste pas une seule trace. Ça, je pense que c'est quelque chose que vraiment l'université de la pluralité. Alors après, il faut un sacré matos. Mais imaginons qu'on ait les moyens, ça serait drôlement bien de faire ça. Et après, de se payer un monteur qui sélectionnerait, parce qu'il y en a toujours un qui rentrerait dans le photomaton pour dire pipi caca. Donc un monteur qui enlèverait ce qui n'est pas forcément pertinent. Et parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs. Voilà. Plus on est de fou, plus on réfléchit, plus on sort des choses nouvelles. En mélangeant nos esprits. Donc, voilà.
Catherine, une idée comme ça, si on n'a pas les moyens de faire un photomaton, est-ce que tu penses qu'un petit site où les gens viendraient écrire un truc, bêtement, je sais
ouais,
pas.
Ouais, mais non, il faudrait que ça soit vraiment juste en sortant, parce que c'est en sortant où, voilà. Et donc, en fait, ouais, tu filmes ça et puis après, tu mets ça sur un site.
Une boîte à idées à la sortie avec des papiers, peut-être.
Ouais, mais c'est moins immédiat que la parole. Non, mais il y a des gens qui s'en sortent mieux avec le papier. On pourrait faire les deux, par exemple. Voilà. Okay. Donc, ça fait partie des idées. Je trouve dommage que tout le jus de cerveau qui se crée aux utopiales soit pas utilisé finalement.
Eh bien, justement, alors pendant que Katie vous parle d'un truc, moi je vais passer avec le. Ah ben non, je vais étendre à un gentil appariteur. Merci beaucoup, bénévole, pardon.
Alors, tu veux commencer toi à dire quelque chose.
Qui est à l'université l'imaginaire.
Mais si, parce que jamais on entend parler. Voilà alors.
Je trouve l'idée de la boîte à idées en fin de conférence absolument géniale.
Notez-le.
Donc, il faut absolument réussir à le faire l'année prochaine.
Copyright et plus. Non, oui. Ce que je voulais dire, c'est... je pensais que Daniel allait le faire, dire concrètement ce qui a été fait quand même, parce qu'il y a eu des choses. D'accord, la réunion internationale, c'est à la fin du mois, mais il y a quand même eu des choses. Donc, il y a eu les séminaires que j'ai évoqués, qui n'étaient pas que négatifs.
Je vous le redis, puisque j'ai noté les titres. Les trois séminaires, c'était « Les nouveaux imaginaires sont nécessaires pour espérer agir sur le futur positivement ». Mais peut-on agir sur les imaginaires ou avec les imaginaires ? Ensuite, il y a deux séminaires qui se suivaient logiquement. Y a-t-il une panne des imaginaires ? Puisque c'est quand même des imaginaires du futur, c'est quand même ce que disait Catherine au début. Effectivement, on a peut-être un peu de mal à imaginer un futur positif. Et ensuite, du coup, quels sont les récits qui donnent sens au futur ? Et faut-il faire de l'imagination du futur une compétence accessible à tous ? Voilà, je pense que j'ai un peu résumé.
Donc il y a eu ça, donc il y a eu les séminaires, il y a eu aussi ce format que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle Futur pluriel, que Daniel faisait avec des étudiants de... Fait encore, oui, pardon. Avec des étudiants de Sciences Po. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un thème et d'avoir des personnes d'horizons différents qui viennent en parler. Et s'en suit, ce qui est quand même le plus intéressant, un échange avec les étudiants et notamment à la fin donc des étudiants qui doivent faire à chaud un rapport d'étonnement et le concept comme ça, raconté comme ça, bon déjà je trouve ça intéressant, mais de le vivre, Catherine, tu en as fait un, Université Futur Pluriel, je ne sais plus ce que c'était ton thème. Bon, bah Catherine, elle en a fait un.
Non, elle en a fait deux.
J'en ai fait un, t'en as fait deux.
Oh, okay. Ouais, j'en ai fait deux.
Moi, j'en ai fait un et t'en as fait un, je crois. Ouais.
En tout cas, plutôt que de garder le compte. Mais l'an dernier, on n'avait pas les vidéos. Alors, c'est ouvert, c'est pas ouvert que aux étudiants de Sciences Po, sinon on a le problème.
Sinon, je vais gueuler.
Non, voilà.
Moi, j'en fréquente professionnellement des étudiants de Sciences Po et ils ont de la merde dans la tête, point. Voilà.
Alors, c'était pas les mêmes.
Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent être très rapidement formatés par ce qu'ils subissent, par leurs envies professionnelles et leurs ambitions professionnelles, ce qui sont légitimes. Mais moi, j'ai aussi à côté de moi une jeune formée en alternance de BTS d'assistante de direction, et ses idées sont aussi pertinentes, voire plus souvent réalistes et modernes et futées que celles des étudiants de Sciences Po qui sont en train de me dire « Ah bon, vraiment, le racisme, ça existe encore, mais moi, j'en vois pas du tout.
C'est pas ce que je vois, mais c'est pas tellement l'idée. Si ça vous intéresse... Ouais, ils sont un peu particuliers, ils sont à moitié designers, etc. Bon, mais allez voir éventuellement la vidéo, par exemple, de la dernière sur le site de l'Université de la Pluralité qui portait sur le genre. C'est effectivement, ils adorent aussi parce que c'est pas souvent qu'ils ont ces confs-là. Il y a Chloé Delhomme qui fait une lecture d'un des textes les plus politiques qu'elle a pu faire. Voilà, il y a Tiffaine Casitani et Hélène Bourrier sur leur boulot qui s'appelle Ginépunk, et je vous imagine là encore le type d'image. Donc allez voir, c'est pas tellement sur le recrutement social. On est à Sciences Po, donc de toute façon, le recrutement social, voilà. Il est quand même. C'est une coupe dans la coupe dans la coupe de ce que décrivait, Catherine. Ça, il n'y a aucun doute hein, là-dessus. Alors, ces coupes sont ouvertes, les vidéos sont ouvertes. L'important, effectivement, je pense, dans ce que citait Katie, c'est le type d'approche, comment ça mélange des scientifiques, des artistes et d'autres types de saltimbanques, le type de boulot demandé aux écrivains qui produisent en plus un article qui paraît dans Uzbek Erika, donc ça leur apprend à faire. Et en général, ils choisissent de faire de la fiction, d'ailleurs. Et en général, alors qu'ils ne l'ont jamais fait, c'est vachement bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce type de démarche qui les amène à faire un truc qu'ils n'avaient jamais fait, où ils vont être publiés, donc où ils pètent de trouille, et pourtant ils le font. Et ça, c'est vachement intéressant.
Ouais.
Question. Oui, j'avais une question. En fait, une question qui est en deux parties. Mais d'abord, merci infiniment pour cette table ronde, cette proposition. En fait, je partage vraiment l'avis de Catherine Dufour sur le fait que les utopiales sont, en tout cas, m'apparaissent de manière un peu profane et en tant que visiteur, mais une pépinière ou un vivier de possibilités pour penser d'autres futurs, même penser d'autres présents. En fait, je pense que la science-fiction en fait réfléchit constamment, quels que soient les modes et les supports, au présent pour peut-être façonner, former un autre futur. Et je pense que cette table ronde en est, à mon avis, et cette initiative de la pluralité en est aussi l'une des preuves. Et je trouve vachement intéressant, en fait, juste pour revenir un tout petit moment sur cette question entre université de singularité et université de pluralité. En fait, j'ai l'impression que l'origine étymologique du mot université, c'est l'universel, et que du coup, l'université de la singularité est une oxymore, pardon pour le terme savant, mais je pense qu'il y a une contradiction dans les termes, en fait. Université de la singularité veut bien dire ce que veut dire finalement l'état d'esprit entrepreneurial et néolibéral, c'est-à-dire qu'en fait, l'univers est pour certains et pas pour d'autres. Et en fait, non. En fait, l'université de la pluralité réinstaure, disons, rétablit l'égalité qui est celle de l'universel. L'universel pour tous.
Juste pour vous couper une seconde, oui. Moi, avec Parcoursup, j'avais un peu l'impression que l'université avait arrêté d'être universelle. Mais...
Oui, hein, je pense que... c'est pour ça que je m'en tiens au niveau étymologique et au niveau humaniste. Je suis d'accord.
Je suis aussi
après, il y a toute la question bourdieusienne des institutions. Enfin, bref, on s'en fout. Mais... et par contre, du coup, ma question était... La première question que j'avais, c'était... il me semble qu'au sein du collectif Zanzibar, il y avait cette initiative de 1000 jours en mars, qui était une des choses qui a été menée au moment de... Enfin, du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui est devenu ces 1000 jours en mars, et dans quelle mesure est-ce que, du coup, la convocation, si je ne me trompe pas, hein, pour faire court, la convocation des imaginaires à partager sur un mode narratif, littéraire, etc., pour créer une sorte de banque de données, aurait été... Est-ce que c'est cette initiative qui est à l'origine, ou disons qui est une des premières pierres de touche, peut-être, de ce projet-là, et qu'est-ce qu'il est devenu? Et dans quelle mesure est-ce que, question plus vaste, deuxième question, est-ce que ce n'est pas les dispositifs qui sont à notre disposition au sein d'un festival comme celui d'Utopial, qui est quand même très... Alors, qui est lié au département de la Loire, qui est lié aussi à différentes directives politiques. Dans quelle mesure est-ce que ce sont les dispositifs qui sont... qui empêcheraient ou qui, au contraire, seraient à réfléchir pour ouvrir vers cette idée de la pluralité? Et troisième et dernière question, mais purement administrative, c'est, vous avez parlé d'une réunion internationale à la fin du mois. C'est quand? C'est où?
Venez.
C'est à quelle date?
Qui est invité?
Ça nous intéresse, je pense.
Alors, la réponse est oui.
Yes. C'est le meilleur mot de toute la philosophie
Daniel,
et toute la pensée.
Je te laisse présenter, c'est le 30 novembre, 1er décembre.
Sur la date, donc c'est les 30 novembre et 1er décembre. Une partie n'est pas complètement ouverte parce que, en fait, le problème qu'on a, c'est que si on fait venir 40 personnes du monde entier et qu'on leur dit « Ah, et puis il y a 150 Français », ils vont être complètement noyés. Donc, en fait, il y a une partie qui est structurée comme un moment où on travaille ensemble. En revanche, comme tout ce que je fais depuis le début de ma vie, tout ce qui sera produit sera public, professionnel, pardon, sera public. Pas de
porn, ça a été, désolé.
Non, elle passe rien, elle passe rien. Bon, mais le 30 novembre, après-midi, est ouvert. Et donc, voilà, c'est sur le site pluralité université.
Okay. Donc, si vous voulez venir, venez.
Donc, c'est ouvert. Pardon?
Oui, si vous voulez venir, venez, welcome.
Je signale sur le lien avec le territoire qu'il me reste pas mal de choses à faire. C'est que dans ma profession d'avant, j'avais bossé un petit peu avec un endroit qui s'appelle Nantes Métropole, qui avait fait un débat plutôt bien sur la transition énergétique, qui avait travaillé sur le numérique, etc. Puis je leur disais ce que j'étais en train de faire de nouveau. Et je dis, mais vous travaillez avec les utopiens? Je dis, on soutient, mais non, pas beaucoup. C'est normal en même temps, parce que quand même, vous êtes loin. C'est de l'autre côté de la place. Là, vous traversez la place, il y a un truc qui s'appelle Nantes Métropole. C'est vrai que c'est difficile, quoi, de faire des choses ensemble. Voilà, il y a un territoire, et je ne sais pas si vous en venez, mais où il se passe un nombre de trucs incroyables. C'est-à-dire, si vous cherchez des Fab Labs, des artistes, des théâtreux, des innovateurs sociaux, des machins, etc., vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc, pour faire ce type de lien avec du faire, avec de la participation, etc., il suffit de tendre le bras dans les limites de Nantes, si on veut. Donc voilà, il y a quelque chose à faire là.
Catherine. Oui, pour parler de 1000 jours en mars, effectivement, alors, dans le cadre de Nuit Debout, on a imaginé que le mois de mars continuait, il y avait le 30 mars, 31 mars, 32 mars, 33 mars, le mois de mars ne finissait pas. Et chacun était appelé, il y avait un pad sur le net, il y a toujours, où on a eu des histoires géniales, quoi. Le 464 mars, il y a quelqu'un qui racontait sa vision de l'avenir, si Nuit Debout avait initié une révolte qui avait réussi. Alors il y a 572 mars, il y a le 693, voilà. Donc il y avait des tas d'histoires géniales, des visions d'avenir, certaines très positives, d'autres très négatives, mais de toute façon toujours en révolte. Et alors évidemment, l'objectif ultime serait été de réutiliser tous ces textes-là, qui résumaient quand même la vision d'un avenir à un moment T. Et on dit en fait. Et de le transformer en livre papier ou numérique et de le diffuser, ça aurait quand même été une belle aventure. Et bien là, on retombe sur le manque de moyens. Et en gros, faut des gens, faut des sous. Et ça, on ne les a pas eus. Mais c'est bien dommage. 1000 jours en mars, c'était une belle chose.
Une autre question ? Troisième, ça y est, c'est bon. Quelqu'un d'autre a une question ?
Ou une remarque, hein, une intervention.
Moi pour vous relancer un petit peu, et puis on est presque sur la fin, mais bon. Je me suis posé la question de savoir si on allait rapidement, ou si vous pensiez qu'il était possible de rapidement passer du penser au faire. Est-ce que parce que c'est un petit peu ça la limite de l'exercice des utopiales ou de plein de festivals et de plein de réflexions intellectuelles, même si bien intentionnées et même si très ancrées dans le réel. Est-ce que à un moment on peut penser que de certaines idées de l'imaginaire ou de certaines voix ou de certaines inventions qui viendraient d'esprit s'étant penché sur la question, il y a des possibilités de faire quelque chose. Est-ce que proposer à un maire, proposer à un élu, proposer à un préfet, non, pardon, j'ai enlevé le préfet. ça ne va pas être possible. Est-ce qu'on peut passer de l'université de la pluralité à quelque chose qui est dans le faire, ou est-ce que ça devient trop compliqué?
C'est pas que c'est compliqué, c'est que je pense que on a pas le temps de perdre notre temps à imaginer des trucs, à nous raconter des histoires, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Et que si tout de suite, et ça, j'ai souvent cette discussion, donc des gens sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit, hein, mais si tout de suite on dit non, mais il faut qu'on regarde comment on fait, etc., en fait, on va commencer à passer nos idées au tamis tout de suite. Ah non, mais ça c'est trop délirant, ça passera jamais, ça c'est pas faisable, etc. Or, voilà, on a besoin d'être capable de se raconter des histoires ou de se formuler des métaphores sans être tenu par le fait de mettre en œuvre.
D'accord, mais ma question était plus sur ce qui est lancé. Est-ce que de temps en temps, il y a un truc qui va jusqu'au faire?
Oui.
Dès le départ, en fait, parmi les premières réunions, et notamment la première ou la deuxième à laquelle Kitty a participé, était sur la logique du faire et d'imaginer des projets collectifs, artistiques, autres. Mais l'ambition, c'est de faire, avec cette dimension internationale, c'est de faire des projets qui puissent être partagés collectivement. Donc ça, c'est l'un des aspects de notre démarche. c'est se faire, mais se faire collectif avec des gens différents. Voilà. Et c'est, mais il n'y a pas un programme, il n'y a pas un calendrier par rapport à ça. Et ça, c'est le premier point de réponse. Le deuxième point de réponse, c'est que, alors je vais te dire un gros mot, mais le bon sens commun néolibéral à la mort moelle-neuve, il est né d'une société qui s'appelait la Société du Mont-Pèlerin. Et c'était des utopistes. Quand ils ont commencé dans les années 50, à 60, etc. Je pense qu'il y a aussi un objectif qui est quand même un objectif majeur, c'est de faire en sorte que d'autres types de pensées, d'autres valeurs, d'autres systèmes, un autre sens commun, qui existe déjà, on ne l'a pas inventé, on le ressent partout, et on n'arrive pas à voir ça, que ce ferment-là se coaguler en plusieurs voix entendables par un public plus large. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une recomposition, on le voit bien, absolument indispensable sur la forme comme sur le fond. Et si on pouvait un temps soit peu participer à ce qu'il n'y ait pas notre faire, mais une multitude de paroles et de faire, puis qui puissent se retrouver dans une sorte de même sens commun à 1, 2, 3, 5, 10 ans, ce serait formidable. C'est un rêve, ça, pour le coup. Hein, mais ça veut dire que ce n'est pas nous simplement qui faisons. C'est que tout le monde doit pouvoir faire avec avec ce sens commun-là, quelque part, qui est en train de se construire.
Katie ? Oui, je voulais juste dire qu'il n'y a pas d'opposition stricte entre penser et faire, et qu'à chaque fois que je suis venue à des réunions, à des ateliers Université de la Pluralité, c'est ce que j'ai aimé, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, bon, on avait des questions, hein, on a les questions par mail en avance, moi je ne les lis pas, et on arrive, on n'a pas les réponses.
Enfin, le poil à gratter, on vous a dit.
Personne ne sait vraiment. Et si on arrivait avec nos réponses, en fait, on pourrait juste se les envoyer par mail et rester chez nous. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des exercices, on fait des ateliers, on fait des jeux, on se confronte, on dit des conneries, et puis de ces conneries sortent des choses un peu moins... C'est pourquoi j'ai regardé Catherine en disant conneries, je ne sais pas.
Je suis vexée.
Parce que tu m'as vu dire des conneries, c'est pour ça. Et de ça va sortir de nouvelles idées, puis en faisant, on pense autrement, et on se rend compte que ben non, c'est mieux de faire comme si. Donc il n'y a pas d'opposition entre le penser et le faire. Et alors le faire, il nous manque encore un peu, hein. On fait nos petits trucs entre nous, donc j'ai hâte qu'on rencontre les personnes, les 40 personnes du monde entier qui viennent, et qu'on fasse des choses, et c'est ça qui est excitant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on ne sait pas avec qui ça va accrocher, on ne sait pas si la danseuse qui fait des trucs sur le futur, si ça va être bien, ce que ça va donner, si on va avoir envie de travailler avec elle, ou plutôt avec le monsieur chinois qui fait autre chose, enfin voilà, on ne sait pas ce que ça va donner, on sait qu'on va essayer des choses, on sait que ça peut être drôle, on sait que ça peut être riche, Et on va faire, et en faisant, on va penser autrement, et en pensant autrement, on va faire encore des trucs. Et voilà, c'est ça que je trouve excitant. C'est ça qui me réveille un petit peu. Voilà.
Bon.
Le micro.
Oui.
Ah, il est là.
On vous écoute.
J'aurais juste deux points. D'abord, merci. Moi, je suis là depuis 14 heures. Je vous avoue qu'à 21h59, j'étais pas très fraîche, hein, pour tout vous dire, j'étais motivée, mais et là vous m'avez, oui, ça m'a fait du bien de vous écouter, parce que je partage pas mal de vos constats, donc ça fait toujours plaisir de voir que on n'est pas tout seul, on ne va peut-être pas tous crever les uns contre les autres finalement.
Si. Peut-être, oui, mais avec des gens qu'on aime bien à côté de nous. Vous voyez, c'est pas pareil.
Donc, mais en ayant pensé qu'on va pas crever.
Ah, c'est ça. Mais en tout cas, merci pour ça déjà. Et du coup, je me disais, pour être dans le faire, j'aimerais bien, là vous avez réussi, enfin bon, j'ai un brasier à l'intérieur de moi, et là vous avez un petit peu soufflé dessus. Vous avez réveillé un peu les flammes, donc ça, j'aimerais bien ancrer en moi là ce que vous avez créé, ce que vous avez fait apparaître en moi. Est-ce que ça pourrait passer par une toute petite action, je ne sais pas, par exemple, pour la future, pour la forme des utopiales de l'année prochaine, justement, garder l'idée d'interactivité un peu plus et pas être consommateur passif. Donc, qu'est-ce que ce serait? Envoyer un petit mail très gentil à l'organisation pour dire oui, alors il y a les gens là de cette l'Université de la Pluralité, ils ont des idées bien. Est-ce qu'une petite boîte à idées, tout ça, voilà, je ne sais pas. Je me tourne vers les. Non, mais est-ce que ça peut. Un petit mail comme ça, une petite action toute bête, enfin, sans. On va pas. C'est pas envoyer des pourriels ou quoi, hein, c'est.
Un débrief après. Oui, j'imagine. Ouais, mais du coup, moi, ça me fait une action. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. J'ai tout à fait confiance au fait que vous allez faire remonter le truc. Ah oui, oui, il y a aucun problème. Mais je sais pas. Tous ceux qui sont là ce soir, qui sont plutôt d'accord avec l'idée, est-ce que vous seriez d'accord? Vous rentrez chez vous, puis vous faites un petit brouillon de mail.
Oui, faites ça.
Voilà, je sais pas. Voilà, c'était mon.
Et on n'est plus invité l'année prochaine. Super.
Mais non, non, mais non, juste vraiment pour dire.
On pourrait par exemple faire l'une des journées des Utopiales. On ferait le jour des fous. Oui. C'est-à-dire, on mettrait le public sur l'estrade, et on mettrait les scientifiques et les auteurs, en fait, dans le public.
Oui, ce serait une très bonne idée. Voilà,
ouais. Moi, je suis partante à fond.
Il y a une dernière question juste par là.
Ouais. Juste, c'est nickel, parce que ça rebondit sur... C'était sur la proposition. Éventuellement, vous allez expérimenter, là, en novembre-décembre, à 40, et qu'aux Utopes, l'année prochaine, effectivement, plutôt que d'avoir l'estrade, qu'il y ait des ateliers interactifs de co-création, voilà, entre vous ou des scientifiques et les gens, et créer, je sais pas, un atelier interactif de créons ensemble l'imaginaire, voilà, du coup, sur... Et ça, il y a des gens compétents sur l'animation des groupes, sur faire des trucs pour solliciter les uns les autres qui sont assez chouettes, et je pense que les Utopes, ça pourrait se... voilà.
Pas seulement des ateliers enfants d'animation, mais des ateliers
d'adultes. Non, mais là, il s'est passé des trucs chouettes, cool, en jeu de rôle, et c'est vrai que du coup, ça pourrait s'étendre sur l'expérimenter, et justement, oser expérimenter ensemble.
Ouais, on pourrait faire, par exemple, des ateliers d'écriture sur quel est votre futur désirable.
Pas bon, bah, c'est un futur rigolo, ouais. En tout cas.
En tout cas, ouais, franc succès. Ah, cool. Ben voilà.
Ah, ben voilà.
Les grands esprits.
Il est invité d'office. Bon, ben c'est bien, on voit que ça marche déjà. Vous êtes puissants, les gars.
Salut.
Il y a déjà 28 qui sont d'un passé futur. Déjà.
Ben voilà.
Oula, on est dans un truc temporel pourri. Micro. Les limites du futur, c'est le micro.
Ouais. Après, je disais, même au-delà des ateliers, c'est vrai que parfois on assiste à des conférences et c'est un peu frustrant. On a 5 minutes de questions à la fin. Il y a 2 personnes dans la salle qui ont le micro et il n'y a pas la possibilité de parler, en fait, de s'exprimer. Alors parfois, on a des choses sur lesquelles on aimerait vraiment rebondir, que les intervenants peuvent dire. Donc on n'a pas forcément cette interactivité-là. Et après, prendre le micro, ce n'est pas facile non plus. Il y a aussi ce fait, il y a les gens, ils savent. Ils sont sur la scène, ils savent, et nous, on ne sait rien, on n'ose pas prendre le micro, on n'ose pas s'exprimer. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez clivant sur l'ensemble des festivals et sur quoi il faudrait réfléchir un petit peu, je pense.
Je crois qu'on vient de nous signaler là-haut avec le petit bruit que c'était un peu la fin.
En tout cas, juste une chose, n'hésitez pas à nous passer, celles et ceux qui ont envie de continuer, des coordonnées. On ne va pas construire une grande base de données, on ne va pas la vendre. Mais voilà, que si ça vous intéresse de poursuivre, qu'on connaisse les ateliers d'écriture en question, etc., venez nous le dire pour qu'on puisse rester en contact, parce que ça commence par ça quand même.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire la jeune fille. Cette scission entre les compétents et ceux qui écoutent, c'est ridicule à partir du moment où on parle d'un avenir commun où tout le monde a sa compétence, puisqu'on va le vivre ensemble dans la même casserole, quoi.
Eh bien alors, construisons, imaginons et
Le mot casserole, c'est quand même... Il fallait le faire.
Merci à vous.